Bienvenue au deuxième congrès virtuel francophone de FT. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir. Et avant de commencer, j'aimerais juste rappeler qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats sur vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Ce cadre étant posé, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Adam Boisard. Bienvenue Anne.
Bonsoir Maria. Enchantée d'être là.
Ce soir, Anne nous propose la conférence « Un seul être vous manque » ou « Comment s'aider de l'EFT pour faire son deuil ». Vous traversez peut-être ou vous avez traversé la douleur du deuil après la perte d'un être cher ou bien d'une relation, d'un emploi, d'une maison. Votre vie change et vous avez du mal à accepter ce changement. Et bien justement, Anne va nous montrer comment utiliser l'EFT pour plus de résilience et pour retrouver facilement le cours de la vie. Anne est la maman de 3 enfants. Elle vit actuellement à Londres où elle est praticienne et formatrice d'EFT certifiée par l'AMET dont elle est l'une des représentantes pour la France. Et elle vient effectivement régulièrement en France donner des formations et des ateliers à thème, notamment au sujet de la fertilité. Anne a été pionnière à Londres de l'introduction de l'EFT en école primaire et elle consulte en cabinet et par Skype sur des sujets autour du stress, la fertilité, les traumatismes et problèmes féminins en général. Et le deuil, sous une forme ou une autre, est souvent présent dans son travail. Je vous rappelle que, comme d'habitude, vous pourrez poser vos questions à Anne à la fin de la présentation. Donc, notez-les et ce sera un plaisir d'y répondre tout à l'heure. Alors, Anne, dis-nous un peu, pourquoi as-tu choisi ce titre ?
Alors, j'ai choisi ce titre parce que tout le monde connaît un extrait, enfin une phrase tirée d'un poème de Lamartine qui s'appelle « L'isolement » et cette phrase « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Et je voudrais vous lire un petit extrait, bon, c'est pas le poème en entier parce qu'il est assez long, mais simplement pour une petite introduction, vous mettre un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que ça te convient ?
Oui, bien sûr.
D'accord, alors je vais commencer. Souvent, sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, au coucher du soleil, tristement, je m'assieds. Je promène au hasard mes regards sous la plaine, dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. Mais à ces doux tableaux, mon âme indifférente n'éprouve devant eux ni charme ni transport. Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante. Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts. De colline en colline, en vain portant ma vue, du sud à l'aquilon, de l'aurore au couchant, je parcours tous les points de l'immense étendue, et je dis nulle part le bonheur ne m'attend. Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, vains objets dont pour moi le charme est envolé? Fleuves, rochers, forêts, solitude si chères, un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Voilà, donc c'est un poème qui est souvent compris comme portant sur une peine de cœur, une séparation. Mais enfin, moi, je le perçois plus comme la douleur qui naît à la suite de la disparition suite à un décès. Bon, enfin, chacun peut comprendre un poème comme il l'entend. Et ça prouve bien que le deuil peut porter sur différentes choses et que les sentiments qu'on ressent quand on fait face à un deuil, sont à peu près les mêmes, se retrouvent. Voilà.
Oui. Alors, dans ton travail, pour toi, justement, tu as souvent travaillé avec le deuil. Est-ce que tu as différencié, est-ce que tu as identifié des caractéristiques ? Qu'est-ce que le deuil ?
Alors, qu'est-ce que le deuil ? Alors, en fait, le deuil, c'est un ensemble de sentiments et d'émotions qu'on ressent quand on est touché par une perte. Donc, dans notre vie, on fait face à des changements non désirés, des disparitions, des pertes. Et toutes ces disparitions, ces pertes, ces changements éveillent en nous un éventail de sentiments et d'émotions très intenses auxquels on est rarement préparé et qu'on n'avait peut-être jamais ressenti auparavant, avec autant d'ampleur en tout cas. Et on part de deuil, tu l'as mentionné au départ, pour tout un tas de situations où on a perdu l'objet de notre attachement émotionnel. Plus on est proche d'une personne, plus on ressentira de la douleur au moment de la perte. Et donc, en réponse à cette disparition, on fait l'expérience de réactions physiques, émotionnelles, mais aussi comportementales. On a du mal parfois à comprendre, enfin, les gens ont du mal parfois à comprendre qu'un deuil, on peut faire l'objet de, enfin, on, le deuil peut porter sur la perte d'un emploi, par exemple. Ou une fonction, parce qu'on est tellement attaché à cette fonction que quand elle cesse, ben notre monde s'écroule, soit à la suite d'un licenciement, soit un départ à la retraite. Et ça peut porter, on peut faire le deuil aussi sur un rôle. Quand on est parent et que les enfants quittent le cocon familial, et ben notre rôle en tant que parent change. Ça fait partie de la vie, mais c'est difficile à gérer et à intégrer. Voilà.
Oui, tout à fait.
Et bon, alors on peut parler de deuil aussi quand un proche perd la raison ou la mémoire, parce que la personne change et c'est un changement évidemment qu'on ne désire pas. Et notre rapport avec la personne change, beaucoup de choses changent, notre monde change, voilà. Donc c'est ça le deuil, c'est faire face à ces changements et essayer de le faire le mieux possible.
Et ça passe par quel type de réaction?
Alors, les réactions, sont toutes les émotions. Alors on peut évidemment, on a d'abord un choc, le choc quand on réalise la disparition, soit d'un être cher par décès ou lors d'une séparation. Donc on a toutes sortes d'émotions, une douleur intense, mais une douleur qui peut être non seulement émotionnelle, mais également physique. On peut ressentir la douleur au niveau du ventre, on a l'impression que le monde s'écroule autour de nous. On peut avoir le souffle court, le souffle coupé, on peut... Ou bien on peut être totalement sous le choc et donc rester figé, comme paralysé, ne
oui,
pas intégrer. Donc en fait, pardon.
Comme anesthésié.
Voilà, comme anesthésié totalement. Voilà, c'est ça. Et c'est un des symptômes des traumatismes en fait. Donc le deuil, c'est un véritable traumatisme. C'est un véritable traumatisme et il se manifeste donc à la suite de ces événements non désirés.
Et quelle est ton expérience du deuil, si tu as trouvé important de parler de ça? C'est que c'est sûrement quelque chose que tu connais bien.
Oui, je le connais bien, je connais bien le deuil, mais tout le monde connaît le deuil d'une façon ou d'une autre parce que c'est tellement vaste. Et avec les exemples que je vais vous donner, parce que j'ai des exemples personnels et puis professionnels. Personnellement, ça a commencé dans mon plus jeune âge, lorsque j'ai perdu mes grands-parents. Donc ça a été le premier deuil à faire, une grande tristesse, une grande douleur. Et c'est aussi une tristesse et un deuil que je retrouve assez fréquemment dans mon travail avec les enfants d'école primaire. C'est souvent le premier deuil qu'ils ont à faire en tant qu'enfants. Voilà, s'adapter à cette perte, s'adapter au manque et à cette douleur. Puis ensuite, j'ai eu mon chien. Alors, il y a peu de gens qui comprennent la douleur qu'on peut ressentir quand on perd son petit compagnon, son petit animal familier. Et pour moi, à l'époque, c'était mon meilleur ami. C'était... l'être qui était toujours là pour moi, l'être qui m'attendait quand je rentrais de l'école, qui manifestait sa joie. Non pas que les autres n'étaient pas heureux de me voir, mais enfin voilà. Oui. Ensuite, bon, il y a eu la fin d'un rêve. Tu vois, on a tous eu des espoirs, de ce qu'on voulait faire. Moi, quand j'étais petite, je voulais être danseuse. Et à la suite d'une blessure, Voilà, il a fallu se réadapter, faire le deuil de ce rêve. Et puis des séparations amoureuses, et puis un autre deuil qui est important pour moi. Ma maman n'est pas décédée, mais elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc pour moi, ça a été important aussi de faire le deuil de cette maman qui n'est plus la maman que je connaissais, qui n'a plus les souvenirs.
Oui, qui n'a plus la même présence, pas la même personnalité.
Voilà, pas la même personnalité. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais, que je, bon, j'ai travaillé sur les émotions qui tournaient autour de ça, mais la réalisation que c'était un vrai deuil, s'est faite un peu plus tard. C'était faite un peu plus tard, à la suite d'un autre deuil. D'où l'importance de travailler sur ces deuils un par un au moment où ils arrivent.
Oui.
Puis ensuite, ben voilà, mon frère est décédé et bon, ça a été un grand choc. Et puis tout récemment, mon papa. Voilà, bon, c'est arrivé. Et encore plus récemment, un collègue et un ami d'une immense gentillesse. Donc c'est tout tout frais. Donc je me permets d'en parler un petit peu. C'est un collègue d'EFT, et il était psychothérapeute et praticien EFT. Il est décédé la semaine dernière. Donc voilà, c'est tout frais. Et voilà, j'en profite pour lui rendre hommage, parce que c'était un homme d'exception, vraiment. Et puis alors, voilà, professionnellement, comment dans notre travail, Maria, on est confronté au deuil, ça peut arriver. Il se peut que nos clients décèdent, puisqu'ils viennent nous voir parfois avec des maladies graves, et ça fait partie de la vie. Donc il faut essayer d'intégrer tout ça, d'évacuer. Et bon, dans le cadre du mentoring ou de la supervision des praticiens EFT, on peut réussir à évacuer ça, à partager. Alors soit le mentoring dans le cadre de la AMET par exemple. Les praticiens formés par la AMET doivent faire du mentoring ou de la supervision, soit en travaillant avec un autre praticien, soit en travaillant avec un autre praticien qui a une formation ou une expérience un peu plus grande, soit en groupe. Et ça, c'est vraiment d'une importance capitale pour pouvoir travailler au mieux avec les patients, avec les gens qui viennent nous voir.
Oui.
Et puis professionnellement aussi, chez les personnes qui viennent nous voir, bon, moi je suis spécialisée dans les traumatismes, donc il y a bien sûr les urgentistes, les médecins urgentistes, les pompiers ou les militaires qui se forgent une carapace pour éviter de s'attacher aux patients ou aux victimes qu'ils côtoient. Mais bon, la mort fait partie de leur travail, et il faut qu'ils fassent leur deuil pour continuer à vivre. Donc c'est pas le même attachement qu'avec une personne qui leur est chère, qui est proche d'eux. Mais bon, c'est quand même des chocs à répétition et qui éveillent tout un éventail d'émotions chez eux. Voilà, donc c'est tout ça.
Bien sûr, et c'est vrai que les exemples que tu donnes montrent bien qu'il n'y a pas que le deuil après un décès. Il y a tout ce qui est départ, tout ce qui est séparation, changement. C'est vraiment le changement.
Oui, exactement. Bon, c'est un changement parfois inévitable. Bon, la mort fait partie de la vie, mais c'est le cours des choses. On sait qu'à partir du moment où on est, on sait qu'on va mourir. Mais on évite d'y penser, et il vaut mieux, parce qu'il faut vivre la vie comme elle est, à fond, avec plaisir, et regarder le positif autant que faire se peut. Mais voilà, donc on est confronté à ça, et c'est vraiment vraiment important de faire son deuil.
Oui.
Alors.
Et pourquoi, dans ton expérience, c'est si important?
Alors, c'est important parce qu'on est encore en vie, même si on a l'impression qu'une partie de notre être est mort avec le départ de la personne ou le décès de la personne, et qu'on a le cœur littéralement brisé. Donc faire son deuil, c'est le seul moyen de vivre sa vie pleinement et sainement. Donc je fais une petite parenthèse parce que j'ai mentionné le cœur brisé en fait, et c'est vraiment une sensation qu'on a physiquement parfois. Tout à l'heure tu me demandais quelle sensation physique. On a vraiment l'impression que notre cœur est en miettes, en mille morceaux. Et bon, quand on a le cœur brisé, on se forge une carapace, on essaie de se protéger et il arrive qu'on se referme comme une coquille Saint-Jacques parce que la douleur est trop forte. On n'imagine pas qu'un jour on ressentira la joie de nouveau. On n'y pense même pas au moment où ça arrive, hein. Ça c'est sûr. Et on fait un amalgame, on pense qu'aimer est synonyme de douleur parce que la perte nous fait ressentir cette douleur. La douleur, elle naît du fait qu'on a aimé la personne disparue. Et bon, je pense qu'on connaît tous des personnes aveugles à l'amour, en fait, aveugles entre guillemets. Hein. Elles ne voient pas l'amour qui est à côté d'elles, même si elles disent rechercher l'âme sœur. Parce que chat échaudé craint l'eau froide. Donc en fait, c'est une forme de protection. Elles ont le cœur brisé et faire un travail de deuil, c'est le moyen de recoller les morceaux éparpillés un à un. Et puis, pour un jour, pouvoir revivre la joie, revivre avec joie et ressentir l'amour. Donc, je disais, faire son deuil, c'est le seul moyen de vivre sa vie pleinement et sainement, parce que, d'abord, on l'a vu, c'est une grosse souffrance, et surtout parce que le deuil, ça arrive une fois, mais pas uniquement une fois. Il est fort probable qu'on soit confronté au deuil plus d'une fois dans sa vie, comme on a vu dans mon exemple, dans les exemples que j'ai cités. Et donc, je parle là de toutes les formes de deuil, et en faisant un travail sur le deuil au présent, on acquiert les capacités à faire face aux situations difficiles de la vie, qui vont surgir inévitablement. Et je dis pas que ça devient plus facile, mais on acquiert une résilience. Alors pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est une résilience, c'est une capacité à rebondir, à être paré, à être prêt à faire face aux autres situations difficiles et génératrices de stress, aux autres épreuves de la vie. Et puis on comprend avec l'expérience que ce ne sont, entre guillemets, que des émotions et que les émotions brutes se transforment et passent avec le temps et aussi avec le tapotement pour laisser entrer des émotions plus positives qu'on pensait ne plus pouvoir ressentir. Mais au tout début, quand ça arrive, c'est pas imaginable. Et donc, si on ne fait pas ce travail de deuil, notre subconscient va nous faire des signes, nous titiller, nous agacer, nous attirer notre attention simplement pour qu'on fasse attention aux émotions qu'on n'a pas voulu ou qu'on n'a pas pu encore observer, gérer ou bien exprimer. Donc, quand on a trop mal, on fuit parfois, hein, on essaie de mettre un couvercle sur tout ça et puis on fuit dans l'activité ou bien dans les addictions qui empêchent ceux qui pleurent en dedans de sortir. Et d'être assimilé. Et donc, comment ça peut se présenter quand on le fait pas? Ces émotions, elles se trouvent coincées, bloquées et figées dans notre corps. Alors, on peut ressentir des maux de tête, des insomnies, manque d'appétit, nœuds à l'estomac, des crampes, des courbatures, boules dans la gorge, enfin bon, toute la série, mal de dos, eczéma, on a du mal à se concentrer, ou ça peut se manifester sous toute autre forme physique, en fait. Hein. Et dans ma pratique, avec les couples qui ont des problèmes de fertilité, dans ma pratique, un deuil non intégré est très souvent une des causes de je vais y arriver. Dans ma pratique, un deuil non intégré est souvent une des causes de l'infertilité inexpliqué, allitération, hein, et
oui,
voilà. Mais bon, alors notre système immunitaire aussi peut se trouver affaibli et tout d'un coup, inexplicablement, pense-t-on, on attrape tous les virus qui traînent. Hein, je pense qu'on a tous vécu ça. Et puis beaucoup de maladies se déclenchent après un choc et un deuil, c'est vraiment un choc. Mais on peut éviter d'en arriver là en travaillant sur nos émotions. Et
voilà,
il faut les...
Et avec des personnes qui auraient des problèmes inexplicables physiques, on peut aussi faire un petit travail de détective et aller voir si ce n'est pas un deuil mal digéré ou mal fait qui serait à la racine.
Exactement. Exactement. Et parfois, de commencer à travailler sur une douleur physique, la personne va avoir une idée, une image, un souvenir qui va apparaître et hop, tiens, on va s'apercevoir que c'est un deuil non digéré, c'est une tristesse, c'est une douleur, c'est une douleur, je veux dire, émotionnelle. C'est quelque chose sur laquelle on a mis un petit couvercle et puis on s'est dit, bon, on verra plus tard, j'ai pas le temps maintenant, il faut continuer.
Mais ça boule là-dedans et ça finit par faire des choses.
Et ça finit par faire des choses et donc voilà, c'est ça. Notre subconscient va nous le montrer de la manière la plus appropriée. Hein. Donc pour chacun ça va être différent. Pour chacun ça va être différent. Mais je voulais parler aussi un petit peu du traumatisme parce que quand on a un choc, on dit souvent ben j'étais paralysée, pétrifiée ou figée. Et je voulais faire un parallèle parce que il y a un monsieur qui s'appelle le docteur Sker, qui est un Américain, qui est un neurologue, qui a fait un travail de recherche sur les traumatismes. Et en fait, il fait un parallèle entre l'homme et le règne animal. Et il s'aperçoit que dans le règne animal en état sauvage, lorsque les animaux ne peuvent pas se défendre ni prendre la fuite, ils restent figés sur place. Donc pour eux, c'est souvent le dernier ressort. Bon, on peut faire un parallèle quand ça nous arrive à nous, après un choc, la première réaction, c'est souvent ça. Et quand l'animal se fige, il libère des endorphines. Et les endorphines, c'est ce qui fait que s'il est attaqué, si un prédateur veut le croquer, sa douleur sera moindre. Donc ça, c'est un processus tout à fait normal. Mais si l'animal n'est pas dévoré et survit à cette phase d'immobilité, dans presque tous les cas, l'animal va se mettre à trembler. Et ce phénomène, ces tremblements, sont souvent accompagnés d'une respiration profonde, la transpiration, etc. En fait, c'est une façon d'assimiler le choc, de l'assimiler et de le laisser partir, de le laisser couler. Et je trouve que c'est une image assez intéressante. On parle souvent de dissociation quand on a un traumatisme. Oui. Mais c'est une explication, enfin, c'est quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi on retrouve des traces comme ça dans notre corps, en fait. C'est le choc reste figé, coincé dans notre corps. Et ces mécanismes de libération comme ça, du choc, d'assimilation, les animaux en cage, par exemple dans un zoo, un cirque, ou les animaux domestiques ne l'ont plus. Et nous, on ne l'a plus, non plus. Enfin, on peut l'avoir, c'est-à-dire qu'on a des tremblements, c'est-à-dire qu'on peut arriver à... Par convention sociale, on va dire, les amis, les gens bienveillants autour de nous vont nous dire « Oh, calme-toi, c'est pas grave, arrête de trembler, remets-toi. » Voilà. Oui. Et donc, on essaie d'éviter ces tremblements, d'éviter cette réaction, d'éviter les pleurs. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est ce qui peut nous aider à commencer à évacuer cette surcharge émotionnelle.
Oui, à dépasser le choc.
Oui, à dépasser le choc, à se libérer, en fait, voilà. Donc, je voulais mentionner ça parce que je trouve que c'est une étude assez intéressante. Il y a une vidéo qui circule sur Internet. Donc, Dr. Sker, ça s'écrit S-C-A-E-R. Et c'est l'image d'un ours polaire qui est poursuivi par un hélicoptère. On lui fait une piqûre d'anesthésiant. Et en fait, au moment du réveil, on voit que l'ours reprend là où il s'était arrêté. Il était en train de courir au moment où il s'est figé. Et au réveil, on le voit qui tremble et qui fait des gestes comme s'il était en train de courir, en fait. Et voilà, c'est une façon d'assimiler et puis d'évacuer le traumatisme.
Oui. D'accord. Alors, dans le travail de deuil que tu observes et que tu accompagnes dans ton travail, est-ce que tu vois des étapes? Est-ce que le deuil, pour toi, est un processus linéaire?
Alors, bon, il y a un processus qui a été décrit par une dame qui s'appelait Elisabeth Kübler-Ross, et elle décrit les étapes du deuil. Donc, il y a des étapes, je ne dirais pas qu'elles sont linéaires, parce qu'on peut revenir en arrière, tout le monde ne passe pas par toutes ces étapes. On peut sauter des étapes, on peut revenir en arrière. Donc linéaire, non, ce ne serait pas le mot. On est tous différents, on a tous des expériences différentes et on a tous des choses qui nous rappellent, on aura des souvenirs qui vont nous rappeler des événements ou des aspects, on va dire, en termes de FT, des aspects de notre deuil. Donc on va pouvoir revenir en arrière. Mais je vais mentionner les étapes du deuil d'Elisabeth Kübler-Ross. Elle cite d'abord la phase du déni ou de la sidération. Donc on n'arrive pas à y croire. La mort ou le départ de la personne qu'on aime est inconcevable. Donc on n'arrive pas à y croire, on ne peut pas y croire. C'est le choc de l'annonce en lui-même. Et donc là, pendant cette phase, évidemment, la mort n'est pas intégrée, c'est sûr. Ensuite, on peut avoir la colère, et parfois mêlée de culpabilité. Ou on peut être se sentir coupable sans ressentir de colère. Voilà, donc c'est pas obligatoire. On ne doit pas obligatoirement passer par toutes ces phases. Et il se peut très bien qu'on ne ressente absolument pas de culpabilité. Enfin bon, voilà. Ensuite, il y a la déprime ou la dépression, qu'elle décrit comme une phase de grande tristesse, de remise en question, et où on ressent une grande détresse. Voilà. Et je voulais juste mentionner, si parmi vous qui nous écoutez, vous ressentez des difficultés, en fait, hein, quand vous repensez au décès. Bon, il est tout à fait normal de parfois, quand un deuil nous arrive, nous tombe dessus, il est totalement normal dans le processus d'avoir envie de mourir. Mais ce que j'aimerais vraiment souligner là, maintenant, tout de suite, c'est que si ça vous arrive fréquemment, si c'est plus qu'un court instant, consultez immédiatement un médecin, s'il vous plaît. N'attendez pas, prenez soin de vous. Vous pouvez vous aider du tapping aussi, mais consultez quelqu'un qui va être là pour vous aider, parce que c'est important. Voilà. Et la dernière
phase.
C'est
normal de traverser cette phase. C'est pas.
Oui, c'est normal.
Pas de votre faute. C'est non. Pas, vous n'avez pas à vous ressaisir. Vous avez le droit de demander de l'aide.
Oui, vous avez le droit et surtout vous avez le devoir de demander de l'aide. Parce que y a des moments où on ne peut pas, où c'est trop, et il faut savoir demander de l'aide. Ça, c'est vraiment très important, très très important, de ne pas se sentir seul, de ne pas se sentir isolé, de trouver un moyen de se faire aider. Voilà. Oui. Les émotions passent, mais on a du mal à le croire au moment où ça nous arrive, où un deuil nous tombe dessus.
Oui.
Et donc là, je vais vous parler maintenant de la phase finale, on va dire, si tant est qu'il puisse y en avoir une. C'est l'acceptation. Donc l'acceptation, et là, Elisabeth Kübler-Ross décrit ça comme un mieux chez la personne en deuil. Elle arrive à intégrer la disparition dans son organisation de vie, donc dans l'organisation de sa vie de tous les jours, et puis de retrouver un fonctionnement à peu près normal. Ça ne veut pas dire qu'on saute de joie. Hein, ça, soyons clairs.
Pas tout de suite.
Pardon ?
Pas tout de suite, en tout cas.
Non, pas tout de suite. Mais bon, on peut s'autoriser à avoir des moments de joie quand même. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on est... De toute façon, on n'est jamais joyeux tout le temps. Hein. La vie serait trop triste. Hein. On ne pourrait pas peser le pour et le contre.
Oui.
Mais là, bon, dans ce cas-là, la tristesse est toujours là. Et même si elle s'estompe, elle se transforme. Évidemment, la personne disparue n'est plus là. Et elle continuera à nous manquer. Ça, c'est un fait. Quoi qu'on fasse, la personne, on ne pourra pas la faire revenir. Donc, ces phases-là, on les passe soit toutes, soit une, deux, et on peut revenir en arrière. Donc évidemment, au moment des dates anniversaires, les dates des anniversaires de naissance ou les dates de décès, ou les fêtes de famille, ou la Saint-Valentin, tout ça, ce sont des occasions de continuer à faire le travail de deuil, parce que c'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Ce sont autant de moments empreints de souvenirs et d'émotions. Et évidemment, on peut et je dirais qu'on doit tapoter. Je dis on doit, mais je mets ça entre guillemets parce que je parlerai un petit peu de mon expérience personnelle un peu plus tard, mais c'est vrai que quelquefois, même si on doit, on n'y arrive pas.
Oui.
Donc tout ça, c'est la théorie. Voilà, c'est la théorie. Une personne qui vit un deuil n'est pas obligée de passer par toutes ces étapes, ça c'est sûr. Et par exemple, le déni au début, on peut y revenir quelquefois plus tard. Il y a des moments où je me retrouve à me dire, « Oh tiens, quand j'apprends quelque chose, je me dis, « Oh tiens, il faudrait que je le dise à papa. » Bon, mon père n'est plus là. Je le sais, je l'ai intégré, et pourtant, c'est une forme de déni.
Le réflexe reste là.
Voilà, le réflexe reste là parce qu'il est encore avec moi. Voilà. Je voulais aussi dire que aucun des deuils, aucun des miens, ni aucun des vôtres ne se ressemble. Un deuil va être différent. La douleur qu'on ressent va être différente. On aura des mécanismes de défense qui seront différents. Et on ne peut pas comparer la douleur des uns avec celle des autres. Je ne peux pas comparer ma douleur, ma souffrance avec celle des autres. C'est absolument incomparable.
Mais oui, ça fait penser à l'exemple que tu as donné avec ton petit chien. Enfin, je ne sais pas si c'est petit, mais ton chien.
Il était petit,
moi, je le rencontre souvent. Je le rencontre souvent dans des séances aussi. Les gens me disent, j'ai perdu mon chien, je suis inconsolable. Et les gens ne me comprennent pas.
Ouais.
Respecter le deuil, peut-être pour vous, perdre un chien, c'est pas grand-chose, mais pour la personne, ça peut être intéressant, ça peut être important. Et
respecter les réactions. Voilà, c'est l'attachement qu'on a envers ce petit être tout doux, tout mignon. C'est notre attachement, c'est ce qu'on a vécu avec, c'est ce qu'il nous apportait dans notre vie. C'est beaucoup de choses. C'est un animal. Pour quelqu'un qui n'en a jamais eu, on peut pas comprendre. On peut pas comprendre. C'est perdre un ami, quelquefois perdre plus qu'un ami.
Oui.
Quelqu'un qui nous défend parfois.
Dans l'adolescence.
Oui,
quand ça a été notre seul ami, comme tu disais.
Oui. Mais même plus tard, avec l'âge, on traverse des phases difficiles dans la vie, et un animal, c'est un déstressant naturel, je dirais, parce que le réflexe automatique, c'est que l'animal, le chat ou le chien, va venir, va faire la fête, va être là pour avoir un petit câlin, Oui, il va être là. Enfin, c'est de l'affection. C'est de l'affection et de l'amour sur pattes, comme je dis souvent.
Oui,
voilà, l'amour pur sur pattes. Oui, non, c'est vrai. Mais voilà, et tout ce qu'on retrouve, en fait, dans toutes les occasions où on vit un deuil, c'est le choc de l'annonce du décès ou du départ de la personne qu'on aime.
Oui.
Quand on se sépare. Et nos réactions au choc sont différentes. Tout à l'heure, on en parlait un petit peu, mais certaines personnes vont pleurer, d'autres vont crier, d'autres s'évanouissent, et puis d'autres restent silencieuses, anesthésiées, engourdies, incrédules, on n'arrive pas à y croire, et puis on se sent assommé. Et on sent comme si le monde s'écroulait. Et en fait, c'est ça, vraiment, notre monde s'écroule quand on est témoin d'une disparition.
Alors, tu es d'accord pour faire un petit travail là-dessus ?
Oui, je veux bien. Je veux bien. Donc, je vais demander à tous ceux qui nous écoutent, et puis à toi, à Maria, si tu veux bien, on va faire un petit peu de tapping, on va tapoter ensemble.
Oui.
Et avant de commencer, je voudrais simplement vous demander de vous souvenir où vous étiez au moment où vous avez appris la nouvelle. Moi, je me souviens toujours qu'enfant, si le téléphone sonnait tard le soir, c'était une mauvaise nouvelle. Donc, pour vous, est-ce que ça peut être ça ? Ça peut être le son du téléphone ? Ça peut être ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu ? Comment vous avez appris la nouvelle de la disparition ? Et c'est souvent ici qu'on reste bloqué. Donc, quand les gens me disent « Oh, ça fait 20 ans, je n'arrive toujours pas à intégrer, je n'arrive toujours pas à dépasser ma douleur », on se repasse la même scène, on sursaute encore au coup de téléphone et on réagit encore à certaines phrases. Est-ce que vous avez entendu dire « je sais pas, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer » ou bien « j'ai quelque chose à t'annoncer, à te dire » Essayez de vous remémorer ce moment-là. Est-ce que toi, tu as une idée en tête, Maria?
Oui, tout à fait.
D'accord. Tout à fait. Donc, je vais essayer d'être assez générale, comme ça tout le monde peut tapoter. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre note du degré d'intensité de la charge émotionnelle que vous ressentez. Donc, sur une échelle entre 0 et 10.
Zéro, que nous ressentons maintenant, en pensant à ce moment-là.
Maintenant, voilà. À l'heure actuelle, pas à l'époque. À l'heure actuelle, quand on repense à la situation. Alors, 0 signifie qu'on n'a pas de charge émotionnelle. Bon, dans ce cas, vous êtes en paix avec vos émotions. Si c'est le cas, essayez de voir si, en repensant à cet événement, vous n'auriez pas une douleur par hasard. Donc, si c'est ça, mesurez cette douleur quelconque dans votre corps. Est-ce que c'est dans le dos, dans la jambe? Donc, ce que vous ressentez maintenant, pas hier, pas au moment où ça s'est passé, mais maintenant. Et donc, le chiffre 10, ça signifie la charge émotionnelle maximale. Voilà. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, Maria.
Oui, vas-y.
Tout le monde tient à rappeler à tout. Voilà. Pour bien travailler avec l'EFT, c'est important de bien s'hydrater.
Oui.
Bien s'hydrater, parce que notre corps est constitué de... pour donner une image, c'est un petit circuit électrique et en fait, on favorise la circulation de l'énergie en buvant.
Oui.
Donc, on va commencer à faire un petit peu de tapotement. Alors, je vais vous demander de commencer, Maria, si tu es prête, sur le point karaté qui se trouve sur la tranche de votre main et de tapoter avec l'autre main. Et vous allez répéter après moi. Merci, Maria, de m'accompagner. Alors... Même si je me sens en état de choc.
Même si je me sens en état de choc.
Quand je repense à ce qui s'est passé.
Quand je repense à ce qui s'est passé.
Je m'aime et je m'accepte quand même.
Je m'aime et je m'accepte quand même.
Même si c'est trop pénible.
Même si c'est trop pénible.
D'essayer de se souvenir du moment où j'ai appris.
D'essayer de me souvenir du moment où j'ai appris.
Et j'aimerais mieux éviter parce que je suis bouleversée.
Et j'aimerais mieux éviter parce que je suis bouleversée.
J'accepte ce que je ressens.
J'accepte ce que je ressens.
Même si ce choc est présent dans mon corps et dans mon esprit.
Même si ce choc est présent dans mon corps et dans mon esprit.
Et je ne sais pas si ces petits tapotements vont faire quoi que ce soit pour moi.
Et je ne sais pas si ces petits tapotements vont faire quoi que ce soit pour moi.
Je fais de mon mieux et je me félicite d'essayer.
Je fais de mon mieux et je me félicite d'essayer.
Alors, sourcil, début du sourcil. C'est vraiment arrivé, je suis en état de choc.
C'est vraiment arrivé, je suis en état de choc.
Coin de l'œil. Mon esprit et mon corps sont imprégnés de ce choc.
Mon esprit et mon corps sont imprégnés de ce choc.
Sous l'œil. C'est arrivé, ça s'est vraiment passé.
C'est arrivé, ça s'est vraiment passé.
Sous le nez. Ce traumatisme dans mon corps.
Ce traumatisme dans mon corps.
Clavicule. Non, pardon, menton. Ce traumatisme dans mon esprit.
Ce traumatisme dans mon esprit.
Clavicule. Je ne crois pas pouvoir m'en remettre un jour.
Je ne crois pas pouvoir m'en remettre un jour.
Sous le bras. Mais je me félicite d'essayer quand même.
Mais je me félicite d'essayer quand même.
Sommet du crâne. Je me félicite d'avoir le courage d'essayer d'intégrer ce traumatisme.
Je me félicite d'avoir le courage d'essayer d'intégrer ce traumatisme.
Voilà, inspire. Expire. Bon, je pense qu'on peut refaire une petite ronde.
Oui.
Allez, on continue alors. Donc, de nouveau sur le point karaté. Alors, même si c'est toujours aussi difficile de repenser à ce qui s'est passé.
Même si c'est toujours aussi difficile de repenser à ce qui s'est passé.
Je peux juste essayer de me focaliser sur ce que je ressens.
Je peux juste essayer de me focaliser sur ce que je ressens.
Dans mon corps.
Dans mon corps.
Et je m'aime et je m'accepte quand même.
Et je m'aime et je m'accepte quand même.
Même si j'aimerais que ce ne soit jamais arrivé.
Même si j'aimerais que ce ne soit jamais arrivé.
C'est arrivé et je m'autorise à être triste si j'en ressens le besoin.
C'est arrivé et je m'autorise à me sentir triste si j'en ressens le besoin.
Même si ce choc est toujours présent dans mon corps et dans mon esprit.
Même si ce choc est toujours présent dans mon corps et dans mon esprit.
Et je ne sais pas si ces petits tapotements vont faire quoi que ce soit pour moi.
Et je ne sais pas si ces petits tapotements vont faire quoi que ce soit pour moi.
Je fais de mon mieux et je me félicite d'essayer.
Je fais de mon mieux et je me félicite d'essayer.
Début du sourcil. C'est toujours aussi difficile de repenser à ce qui s'est passé.
C'est toujours aussi difficile de repenser à ce qui s'est passé.
Coin de l'œil. Je peux essayer de me focaliser sur ce que je ressens dans mon corps.
Je peux essayer de me focaliser sur ce que je ressens dans mon corps.
Sous l'œil. C'est arrivé, ça s'est vraiment passé.
C'est arrivé, ça s'est vraiment passé.
Sous le nez. Je ne sais pas si ces petits tapotements vont faire quoi que ce soit pour moi.
Je ne sais pas si ces petits tapotements vont faire quoi que ce soit pour moi.
Menton. Et si ça pouvait m'aider à me détendre un peu?
Et si ça pouvait m'aider à me détendre un peu?
Clavicule. Ce choc est toujours présent dans mon corps et dans mon esprit.
Ce choc est toujours présent dans mon corps et dans mon esprit.
Sous le bras. Et si je m'autorisais à me détendre un peu?
Et si je m'autorisais à me détendre un peu?
Le sommet de la tête. Je me félicite d'avoir le courage d'essayer.
Je me félicite d'avoir le courage d'essayer.
Allez, inspirez, expirez. Et buvez une gorgée d'eau si vous en avez sous la main.
Mm-hmm. Ben, en tout cas, ça détend. Voilà.
Ça détend. Mmh. Ça détend.
C'est toujours ça de prix.
C'est toujours ça de prix. Alors, il se peut que l'intensité ait diminué de beaucoup, il se peut qu'elle ait diminué d'un petit peu. L'essentiel, c'est de continuer et puis de faire attention à ce qui nous vient à l'esprit quand on tapote. Prendre note, peut-être pas travailler tout de suite si on n'en a pas le temps, le courage ou l'envie, mais prendre note de ce qu'on a vu, si c'était une image, une pensée. Noter et si besoin, d'aller voir un praticien pour travailler avec, si c'est trop difficile à faire seul. Oui. Et ça, je ne saurais le conseiller assez. Pour nous aussi, praticiens, on a besoin parfois d'un œil différent, quelqu'un qui va nous aider à aller là où on n'a pas envie d'aller.
Oui, bien sûr. Et
comme ça, d'intégrer et d'avancer.
Mm-hmm. Alors justement, l'EFT est un outil très efficace et rapide. Mais est-ce que tu dirais qu'il faut faire son deuil rapidement?
Alors, ben, là, c'est assez controversé. Moi, je dirais oui et non.
D'accord.
Généralement, c'est non. Généralement, c'est non parce que rapidement, ça reste à définir. Rapidement, ça veut dire quoi, hein? Chacun doit suivre ses propres besoins, son propre rythme. Et nous, en tant que praticiens, quand on travaille avec quelqu'un, on suit le rythme de la personne. Ce n'est pas à nous de décider, oh bon, ben allez, aujourd'hui on décide que c'est fini. Non, 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 non. C'est la personne qui prend son temps, qui avance à son rythme. C'est la chose la plus importante. Et ça, je tiens à le signaler, parce que dans une même famille, par exemple, quand il y a un décès, il y a des personnes qui sont prêtes à tout chambouler, à refaire les papiers peints de la chambre du défunt. D'autres vont vouloir jeter les vêtements, les papiers. Bon, ça s'avère parfois difficile, souvent d'ailleurs difficile, mais ce que je voulais dire, c'est que ça s'avère souvent nécessaire de faire le tri des papiers administratifs parce que la maison doit être en vente ou pour toute autre raison. Hein, ça fait partie des choses qu'on doit faire. Mais c'est souvent un traumatisme de plus qu'il faut pouvoir encaisser. Il faut surtout parler de ce qu'on ressent, exprimer ses émotions. Et ça peut être un moment de rapprochement familial. Mais parfois, malheureusement, les émotions sont tellement intenses, tellement à fleur de peau, que les dissensions peuvent être aussi exacerbées. Et donc là, le tapping peut, peut beaucoup aider à relativiser et à trouver un terrain d'entente. Donc, mais moi, enfin, dans mon expérience personnelle, je pense qu'on peut traverser les étapes du deuil et intégrer rapidement quand on se sent prêt. Et le tapping aide totalement. Et là, je voudrais revenir à un exemple personnel. En fait, au moment du décès de mon frère, on m'a annoncé le décès de mon frère alors que j'étais enceinte de 6 mois. Et évidemment, ce n'était pas le meilleur moment. Mais est-ce qu'il y a jamais un meilleur moment pour ça? Hein, ça, jamais. La mort frappe quand on s'y attend le moins.
Oui.
C'est quelque chose auquel on n'est pas préparé. Et donc j'ai passé des jours terribles où j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer et je me sentais coupable d'abord de faire subir ces émotions et ce traumatisme à ma fille in utero. Mm. Je n'avais pas envie de tapoter du tout au bout. Hein. Donc c'est pour ça au début quand on dit on doit, oui on doit, mais quand on n'a pas envie, ben, il faut se laisser le temps. Voilà, mm-hmm. Il faut se laisser le temps. C'est un outil fantastique quand on est prêt. Quand on est prêt. Et ça peut nous aider à être prêt aussi. Donc s'il y a quelqu'un autour de nous qui veut nous aider, il faut nous laisser la décision. Hein, c'est notre choix. Donc au début, j'avais pas envie de tapoter du tout. J'étais complètement anéantie. Je n'avais ni la force, ni l'envie. J'avais envie de mourir. Et en même temps, je me sentais vraiment coupable de ne pas avoir été près de lui quand il est mort. Coupable d'infliger ça à mon bébé. Coupable de ne pas avoir pu aller aux obsèques, etc., etc. Et puis, j'ai demandé de l'aide. Et puis, surtout, il faut savoir demander de l'aide et oser le faire. Mon mari est aussi praticien EFT, il est certifié par la AMET, et il m'a juste pris la main pour tapoter sans rien dire. J'avais pas besoin de parler, le traumatisme était là, donc on était en plein dans les émotions.
Oui.
Donc parfois, sachez qu'il n'y a pas forcément besoin de parler, pas forcément besoin de dire les choses. Ça peut aider, mais quand on est plongé dans le choc, tapoter, ça le fait.
Oui.
Donc, et ensuite, progressivement, toute cette culpabilité s'est atténuée, mon corps s'est détendu, et les contractions de mon ventre se sont calmées, mon cou, ma mâchoire, tout ça s'est décrispé. Et puis, j'ai pu parler à mon frère tout en tapotant, lui dire combien j'étais désolée de ne pas avoir été là, combien il me manquait. Mmh. Et tout d'un coup, j'ai eu la réalisation totale que mon frère n'aurait jamais voulu que sa nièce souffre comme je souffrais de sa mort. Mmh. Et là, tout a été plus facile. Je ne dis pas que ça a été un chemin parsemé de roses, mais je me suis sentie sourire, je me suis mise à sourire, et puis le bébé a bougé tout doucement, comme pour me dire « c'est bien, t'as compris ». Et puis ensuite, on a pu comment ?
Coucou, je suis là.
Voilà, coucou, je suis là et ça va mieux, tout va bien. Et puis ensuite, on a pu tapoter en famille avec mes autres enfants et leur faire exprimer leur douleur, à eux aussi, leur peine. Et puis on a organisé une petite cérémonie entre nous, en mémoire de mon frère. On en a acheté un cierge, on a fait un gâteau pour symboliser la vie. Et on s'est régalé en pensant à lui, en se remémorant sa gentillesse et les bons moments qu'on a passés avec lui. Mais ça ne voulait pas dire que mon deuil était fini. Hein. C'était juste la réalisation que je n'avais pas besoin de souffrir autant pour l'honorer. Mmh. Et qu'au contraire, c'est son amour de la vie qui m'a rappelé que j'en avais encore une. Et qu'il y en avait une autre avec moi à l'époque.
Oui.
Et donc, bon, ben, on peut se servir de plein de choses pour s'aider à faire son deuil. On peut regarder des photos. Moi, ce qui m'a aidé avec le décès de mon frère, c'est de regarder ces photos. C'est vraiment très fort, ou bien encore en regardant la télé, quand il y a des films où des personnages ressentent de la douleur, de la tristesse, hein, tapoter simplement, sans rien dire. Mais je pouvais aussi aller prendre les guitares de mes enfants et puis me remémorer celles de mon frère et tapoter sur toutes les émotions qui se manifestaient sans même devoir les nommer ou même les évaluer. Et puis, bon, juste laisser venir ce qui vient. Si ce sont des larmes, c'est bien. Si c'est une autre émotion, c'est bien aussi. Bah, évidemment, il me manque toujours. Hein, et puis, aux dates anniversaires, quand je sens quelque chose remonter, ben, j'accueille ça et je tapote.
Oui.
Et puis, il y a un autre moyen, c'est que ça m'est revenu aussi, c'est tenir un vêtement ou quelque chose qui appartenait à la personne qui n'est plus là. Regarder une vidéo et L'autre jour, en faisant le tri de mes audios, j'ai retrouvé un audio de mon père qui lisait un poème à mes enfants. Et ben, je m'attendais pas à ce que ça me chamboule autant. Ah, et ben, c'était l'occasion de tapoter. C'était vraiment bien et ça permet de voir le bon côté, les bons souvenirs qu'on avait oubliés, de laisser passer la douleur pour ne se remémorer que le bon, que le positif. On va pas oublier l'événement, hein, c'est pas ça, je veux dire, hein, mais c'est la douleur, c'est tout ce qu'il y a autour, tout ce qui nous pollue, en fait. Hein.
Oui.
Voilà. Et et dans mon enfance, je reviens, mais tu parlais de mon petit chien tout à l'heure, je connaissais pas le tapping à l'époque, hein, j'aurais bien aimé, oui. Il y a plein d'enfants qui s'en servent aujourd'hui. Et bon, ce que tu disais, de ce que les gens disent quand on a un animal, toutes les paroles des gens bien intentionnés, hein, même nous, ça nous arrive parfois d'essayer de consoler quelqu'un et de pas trouver les mots justes.
Oui.
Tout à l'heure, l'exemple, c'était, c'est qu'un animal, pourquoi t'es aussi triste pour un chien Voilà, mais il y a d'autres choses, d'autres mots qui sont terribles dans l'entourage, hein, et il faut savoir pouvoir exprimer ses émotions et savoir trouver, choisir la personne avec qui parler, en fait.
Oui.
Quelqu'un qui vous écoute et qui vous comprend. Quelqu'un qui vous bichonne, si vous avez ça sous la main, c'est encore mieux. Mais s'il n'y a personne, c'est à vous de prendre soin de vous, hein, et d'aller vous faire du bien. Faire un massage, aller à la piscine, vous forcer à vous promener, à sortir dans la verdure, ou bien trouver quelqu'un, un professionnel qui va pouvoir vous aider et vous comprendre.
Oui.
Et donc, dans votre entourage, vous avez certainement des amis, un praticien, des gens spécialisés dans le deuil. Et si vous n'avez personne à qui parler, à qui confier vos craintes, vos angoisses, vous pouvez essayer de trouver ces professionnels. Mais il y a aussi des gens qui se tournent vers les personnes qui sont croyantes, se tournent aussi vers les ministres du culte, hein, vers les personnes qui sont responsables dans l'Église.
Oui, toutes les sources de soutien à ce moment-là sont bonnes à prendre.
Voilà, toutes les sources, et il faut surtout pas hésiter à le faire. Bon, parfois on a peur de déranger, on ne peut pas parler de tout, c'est difficile de parler de sa colère ou de la culpabilité qu'on ressent vis-à-vis de la mort de quelqu'un ou du départ de quelqu'un.
Oui.
Mais parfois il y a des gens qui nous font comprendre qu'on radote, qu'il faut aller de l'avant, que ça y est, le temps a passé. Bon, apparemment on n'est pas compris dans ce cas-là et il faut chercher ailleurs, un soutien ailleurs.
Oui. Alors, justement, avant de passer aux questions-réponses, je crois que tu avais préparé une petite séquence pour ces paroles déplacées, bien intentionnées, certes, mais qui peuvent blesser.
Oui. Ben oui, parce que les réactions de l'entourage face au deuil sont vraiment quelque chose de bizarre parfois, hein, parce qu'on est dans une société où on a peur du deuil, on a peur de la douleur. Et on ne sait pas comment faire face à la douleur de l'autre. Bah, déjà, la sienne, c'est difficile, mais la douleur de l'autre, c'est parfois encore pire. Donc, les gens sont mal à l'aise, ils ne savent pas quoi faire ou quoi dire. Et parfois, on aimerait mieux qu'ils se taisent plutôt que de dire des bêtises.
Ou juste qu'ils disent qu'ils sont désolés. Oui, parfois, on aurait juste besoin d'une présence, on aurait juste envie d'être écouté et qu'on ne dise rien en face.
Oui,
mais bon, ça aussi, c'est personnel.
Oui. Et c'est terrible. J'ai donné un exemple parce que une jeune femme qui a perdu son enfant quelques heures après sa naissance, et elle savait pas ce qui était pire, hormis le fait d'avoir perdu son enfant. C'était de voir une amie qui change de trottoir pour éviter d'avoir à faire face à sa douleur, ou bien une autre qui, pour la consoler, lui dit ne t'inquiète pas, avec le temps tu vas oublier. Tu es encore jeune. Tu auras d'autres enfants. Est-ce que ça console au moment où on est dans la phase la pire du deuil? Je ne pense pas. Quand on vit un drame, on ne peut pas se projeter dans l'avenir de toute façon. Et très franchement, quelle consolation. Mais il y a un autre exemple qui me vient en tête. Là, c'est un jeune prêtre qui un jour, au moment d'un enterrement, pour combler le vide et essayer d'atténuer la douleur des enfants d'une famille dont le père était décédé, Je leur dis, au moins, il a bien vécu. C'est un bel âge. J'ai récemment donné l'extrême onction à une petite fille, à un jeune homme d'une vingtaine d'années. On ne peut pas comparer et il faut laisser la douleur à la famille. Chacun vit sa douleur personnellement. Et bien sûr, c'est terrible de vivre ce que lui a vécu, hein, d'aller donner l'extrême onction à un enfant. C'est terrible. Et je n'ose même pas imaginer la douleur de la famille de ces enfants, les parents et de l'entourage. C'est indicible. Mais ce qu'il faut surtout éviter, c'est de ne pas essayer de comparer. Ce n'est pas en essayant de montrer la douleur des autres qu'on va atténuer la douleur de la personne qu'on veut consoler.
Non, pas dans cette phase-là, en tout cas.
Oh non, pas dans cette phase-là. Et voilà. Bon, il y a des tonnes d'exemples, mais pour une séparation, par exemple, des copines ou des copains qui disent « Oh, c'était à prévoir, il ou elle n'était pas faite pour toi. »
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ou tu trouveras quelqu'un d'autre. Hein.
Voilà. Ou je n'ai jamais pu le sentir ou la sentir. Ou bien une de perdue ou un perdu, dix de retrouvée.
C'est vrai que ça
n'aide
pas trop. Ouais.
Non, ça n'aide pas trop. Mais bon,
de toute façon, je ne l'aimais pas.
Voilà, de toute façon, je ne l'aimais pas. Oh, voilà, alors, c'est quelle consolation. On est content pour toi. Hein. Mais non, c'est terrible. Mais on pense que ça va aider, que ça va soulager. Bon, quelquefois, ça peut faire rire tellement c'est ridicule. Mais souvent, bon, quand on est dans ces phases-là, non, c'est terrible. Et s'il vous plaît, si ça vous est déjà arrivé, essayez de repenser. Dites plutôt, je suis là, si tu as besoin de parler et d'écouter simplement. D'écouter.
Oui, oui.
Bon, voilà. Donc, on peut tapoter donc sur nos réactions sur nos réactions émotionnelles face à la réaction des gens. Donc, essayez de vous remémorer ce que les gens vous ont dit. Essayez de revoir, de réentendre ce qu'on vous a dit, l'émotion que vous aviez ressentie. Et donc, prenez note du degré d'intensité de la charge émotionnelle que vous ressentez maintenant, aujourd'hui, quand vous repensez à ce qu'on vous a dit, lorsque vous avez perdu quelqu'un de proche. Essayez de mesurer ça entre 0 et 10. 0, c'est pas de charge émotionnelle, et 10, c'est la charge émotionnelle maximale. Tu es prête, Maria?
Oui.
Alors, on va commencer par tapoter sur le point karaté. Même si ce qu'ils m'ont dit m'a beaucoup peiné.
Même si ce qu'ils m'ont dit m'a beaucoup peiné.
Je sais qu'ils faisaient de leur mieux pour essayer de me consoler.
Je sais qu'ils faisaient de leur mieux pour mieux me consoler.
Et pour m'aider.
Et pour m'aider.
Et j'accepte ce que je ressens.
Et j'accepte ce que je ressens.
Même si c'est pénible de savoir qu'il m'évite.
Même si c'est pénible de savoir qu'il m'évite.
Pour ne pas avoir à me parler.
Pour ne pas avoir à me parler.
Parce qu'ils ne savent pas quoi me dire.
Parce qu'ils ne savent pas quoi me dire.
Je commence à comprendre que c'est leur problème et pas le mien.
Je commence à comprendre que c'est leur problème, pas le mien.
Même s'ils sont pleins de bonnes intentions.
Même s'ils sont pleins de bonnes intentions.
Leurs conseils me font mal et j'accepte leur façon de réagir.
Leurs conseils me font mal et j'accepte ma façon de réagir.
Début du sourcil. Ce qu'on m'a dit m'a fait de la peine.
Ce qu'on m'a dit m'a fait de la peine.
Coin de l'œil. Il voulait me consoler.
Il voulait me consoler.
Sous l'œil. Il voulait m'aider.
Il voulait m'aider.
Sous le nez. C'est terrible cette tristesse.
C'est terrible cette tristesse.
Menton. Il m'évite.
Il m'évite.
Clavicule. Ils font de leur mieux.
Ils font de leur mieux.
Sous le bras. C'est leur problème.
C'est leur problème.
Sommet du crâne, pas le mien.
Pas le mien.
Sourcils, c'est leur problème.
C'est leur problème.
Coin de l'œil, c'est mon problème.
C'est mon problème.
Sous l'œil, c'est ma douleur.
C'est ma douleur.
Sous le nez, c'est ma peine.
C'est ma peine.
Menton. Et si je pouvais laisser couler?
Et si je pouvais laisser couler?
Clavicule. Et si je pouvais me détendre?
Et si je pouvais me détendre?
Sous le bras. Et si je pouvais leur laisser leurs problèmes?
Et si je pouvais leur laisser leurs problèmes?
Sommet de la tête. J'accepte de me détendre maintenant.
J'accepte de me détendre maintenant.
Allez, une bonne inspiration. Expirez. Prenez une petite gorgée d'eau. Et voilà.
Ça fait du bien.
Donc il se peut qu'évidemment des images, des idées, des pensées ou des réactions physiques, des douleurs, des serrements dans le ventre, fassent surface. Essayez de partir de là et de les suivre. Prenez note de ça et puis travaillez tout autour. Il faut réussir à avoir, à attraper tous les aspects de cette douleur, de cette peine. Et,
oui.
Et de voir, on peut leur en vouloir aussi, donc on aurait pu rajouter ça, leur en vouloir, être en colère. Et d'ailleurs,
oui.
c'est aussi une d'autres aspects donc, qu'on n'aura pas vraiment le temps d'aborder en détail aujourd'hui, mais bon, on peut ressentir de la douleur et de la colère. Bon, d'abord la colère, souvent, la colère d'avoir été abandonnée, hein, par le fait qu'on se retrouve seul, que la personne décédée ou une personne nous a quittés. Ou bien on peut se sentir coupable, de se sentir soulagé quand une personne décède après une longue maladie.
Oui.
C'est plus fréquent qu'on ne le croit. Ou on peut se sentir coupable d'avoir demandé au vétérinaire d'endormir son chien ou son chat. De ne pas avoir été là, de ne pas avoir dit au revoir ou adieu. La colère contre la maîtresse ou l'amant. On déplace la colère qu'on ressent vis-à-vis du partenaire qui est parti. D'avoir été abandonné, on la déplace sur une tierce personne. Donc, il faut travailler sur ça. Et puis ensuite, la colère sur le partenaire réapparaît. Et on peut vraiment travailler sur le fond du problème. On peut se sentir coupable aussi de ne pas avoir fait quelque chose, de ne pas avoir dit, de ne pas avoir remarqué. Bah, par exemple, ne pas avoir remarqué le début d'une maladie.
Oui. Alors, exprimer tout ça tout en tapotant.
Exactement, tout en tapotant. Et bon, on comprend tous qu'une disparition, c'est un monde qui meurt, un monde qui s'écroule. Mais ce qu'il faut voir, c'est que un autre monde renaît. Une autre organisation, une autre place dans la société ou dans la famille. Donc, il faut qu'on forge une autre identité. Qui est-ce qu'on est si notre sœur, notre frère est décédé? Est-ce qu'on devient l'aîné? On était la cadette? Comment ça se passe? Est-ce que les parents d'un enfant unique qui meurt, qu'est-ce qu'on est? On est parents orphelins? Est-ce qu'on est encore parents? C'est très compliqué. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui tournent autour du deuil, en fait. Hein, et quand nos parents meurent, on devient la génération la plus âgée. On est en haut de la pyramide.
Oui.
On change. Il faut qu'on s'adapte à tout ça. Et puis, on peut aussi, comme on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, partir simplement du travail sur la douleur physique et donc tapoter tout autour pour essayer d'amoindrir les émotions, l'intensité des émotions.
Oui.
Et le but final du deuil, c'est d'accepter la mort et d'accepter de se détacher. Alors, bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de se détacher de la personne. Moi, je dirais plutôt, j'ai une autre vue de la chose, c'est que l'important pour moi, c'est de se détacher de la douleur, pas de la personne qui a disparu.
Oui.
On a vécu des choses.
Parce que beaucoup de personnes qui veulent travailler le deuil avec l'EFT ont peur d'oublier.
Eh oui, et non, on n'oublie pas. On n'oublie rien.
Non. On enlève la douleur.
On voit même. Voilà. On enlève la douleur excessive et souvent, le travail avec l'EFT permet de revoir les choses avec plus de clarté, à avoir des réalisations, à comprendre des choses qu'on ne comprenait pas forcément quand on avait toutes ces émotions qui nous bouchaient la vue.
Oui.
Et l'important surtout, moi ce que je dirais, c'est l'important, c'est d'accepter là où on en est dans notre travail, dans notre processus, d'accepter chaque étape, de ne pas vouloir griller des étapes parce qu'il faut, il faut, il faut. Ça s'est passé, la personne n'est plus là, c'est un fait, on peut faire quelque chose, on peut aller mieux et on va aller mieux. Les émotions
à un moment
passent.
Donné.
Ouais, oui, les émotions passent et l'EFT peut aider avec ça. Voilà, je pense que on pourrait encore en parler pendant des heures parce que vraiment c'est un sujet qui me passionne.
Bien sûr. Mais merci déjà de toutes ces pistes que tu as partagées. Ça donne des idées, je pense, pour les personnes qui sont dans ces situations-là.
Ouais.
Et nous allons passer aux questions-réponses.
Avec plaisir. Voilà. Alors, Anne, est-ce que tu as vu les questions? Je vais rouvrir ta ligne téléphonique. Voilà, tu es
Allô?
Avec nous.
Allô? Vous m'entendez de nouveau?
Oui.
Bon, très bien. Écoute, y a pas mal de questions. Là, j'envoie d'Evelyne. Si une personne ne se répète pas, je pense qu'il manque un pas, ne répète que les rondes sans tapoter, le travail de deuil sera-t-il aussi efficace qu'avec les tapotements? Alors non, parce qu'en fait, si on répète que les rondes, que les phrases, sans tapoter, sans même imaginer tapoter, parce que ça, c'est encore une autre façon de faire de l'EFT, c'est répéter des phrases négatives. Donc là, ça ne va pas amener grand-chose. Le fait de tapoter, ça nous libère dans notre système énergétique. Ça libère toutes ces émotions qui sont coincées en nous. Donc, je conseille fortement aux personnes qui font les rondes de tapoter sur les points qu'on a indiqués. Mais bon, ce que je viens de toucher là, je viens de dire, c'est que il y a des expériences qui ont été faites, par exemple pour les gens qui souffrent d'insomnie, par exemple, lorsqu'elles sont couchées, pour éviter de se lever ou de bouger, de tapoter avec leurs doigts sur les différents points des méridiens, elles imaginent tapoter et on a l'impression, le résultat est que le tapotement imaginaire, comme ça, fonctionne et leur permet quand même de débloquer les émotions ou les tracas qui les empêchent de dormir.
Oui,
facile, n'en est pas. Alors, donc, il y a d'autres questions. Attendez.
Oui, je trouve la question « dit jamais » particulièrement intéressante vu tes spécialisations à toi, Anne. Comment faire du deuil pour des fausses couches ou une IVG?
Alors,
j'imagine que tu pourrais le développer pendant quelques heures, mais voilà une réponse.
Alors, pour les couples infertiles, c'est ça, c'est très souvent un deuil qui est à l'origine de l'infertilité. C'est cette question dont tu parles. Parce que je t'entends très mal, je sais pas, il y a des interférences là sur la ligne. Donc, oui, effectivement, j'aide beaucoup les couples qui ont des problèmes de fertilité. Et très souvent, chez la dame ou chez la future maman qui vient me voir, une des causes, alors je ne dis pas que c'est la cause unique, mais une des causes d'un blocage pour avoir un bébé, c'est un deuil. Alors le deuil dont il s'agit, c'est souvent un deuil qu'elle n'a pas fait parce qu'elle a eu une IVG dans le passé, une interruption volontaire de grossesse. Et très souvent, quand ça se passe, on se dit, bon, il fallait le faire, c'était ce qu'il y avait à faire, et on se dit que finalement, ça n'a pas eu vraiment d'impact. Et on se relance, très souvent, on sort de la clinique ou de l'hôpital le lendemain, ou le jour même, pardon, et on reprend le travail le lendemain ou le surlendemain, et on oublie, on met un couvercle là-dessus. Donc finalement, le temps passe, les émotions restent à l'intérieur. Et qu'est-ce que le corps apprend et qu'est-ce que le subconscient apprend? C'est que y a un risque, si on est enceinte, eh bien, on va devoir repasser par là. Donc, comment éviter ça? Eh bien, ne plus avoir de bébé. Voilà, d'où l'explication. C'est de ce deuil-là dont je veux parler, mais ça peut être un autre deuil également, mais ça, ce sera particulier à chacun. Ce deuil d'un IVG passé et non intégré, même si on n'en a pas conscience, hein, c'est pas quelque chose qui tracasse les femmes sans arrêt, mais elles y repensent quand même souvent au moment du tapping, c'est une idée qui revient, et donc si ça revient quand on tapote, si c'est une idée ou une image qui revient, il faut s'en occuper. Donc, quoi que vous fassiez, quand vous faites une série de rondes, une série de tapping, si vous avez une pensée, une image qui vous arrive, notez-la si vous n'avez pas envie de vous en occuper tout de suite, mais revenez-y et travaillez-la. Alors, Autonal 33 dit, comment peut-on faire le deuil d'une personne disparue car on espère toujours qu'il est vivant ? Alors, ben on espère toujours, alors ça c'est le déni, hein. on a l'impression, alors si c'est disparu dans la nature, enfin qui n'est plus là, pas mort, donc là c'est difficile, mais c'est de la même chose qu'avec une rupture. Quand la personne n'est plus là, avec une rupture, en général on sait que c'est définitif. Quand il y a un divorce, il est très rare que deux personnes se remarient. Ça peut arriver, mais on ne va pas compliquer les choses. Il faut commencer à tapoter d'abord sur le choc de l'annonce, comme on l'a fait tout à l'heure. Et puis essayer de voir tous les aspects. Alors, je ne peux pas répondre à 100% à cette question parce que je ne sais pas si c'est une personne qui est décédée ou qui a disparu, qui est partie. Mais de toute façon, on peut tapoter sur les émotions qu'on ressent, soit le regret qu'il ne soit pas là, soit la peine qu'on ressent, la douleur qu'on ressent, tout ce qui va aller autour, soit la culpabilité, est-ce que vous vous dites « Oh, c'est à cause de moi qu'il est parti ?» Même si souvent et même très souvent les personnes décident pour elles-mêmes. Hein, je pense que c'est une chose qu'il faut qu'on arrive à se rappeler qu'en fait quand quelqu'un décide de partir, c'est son choix. Si c'est une disparition de son fait. Voilà. Je tapote tous les jours une question de bonheur. Alors je ne t'entends plus, Maria, est-ce que tu es là ?
Oui, je suis là. Comme tu m'entendais
voilà,
pas,
je pose des questions. Voilà, non, j'étais pas sûre. J'ai vraiment du mal à entendre avec cette ligne.
D'accord. Est-ce qu'on peut le faire pour quelqu'un d'autre ?
Alors, est-ce qu'on peut le faire pour quelqu'un d'autre ? Alors, ça dépend faire quoi. Faire le deuil pour quelqu'un d'autre, ce sera difficile. Ce que je propose de faire, par contre, c'est de tapoter sur les émotions que vous ressentez par rapport à ce que vit l'autre. Maintenant, moi, je pense que si l'autre personne est d'accord, vous pouvez travailler avec elle, vous pouvez l'aider. Mais je pense que c'est quand même assez délicat de le faire pour quelqu'un d'autre.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut respecter le rythme, il faut respecter le rythme du travail de deuil qui se fait.
Et puis le choix aussi, hein. Quelquefois, on veut rester. Hein. Comme j'expliquais moi tout à l'heure, au début, pendant quelques temps, mais j'avais envie de ça, j'avais besoin de ça. Donc, quelquefois, il faut qu'on passe par là. Mais rien n'empêche que vous proposiez votre aide. Rien n'empêche que vous proposiez votre aide. Et bien sûr, ce sera très bienvenu. Mais ce qu'il faudrait éviter, et c'est ce que tous les thérapeutes font, c'est éviter de décider à la place du client ou essayer d'éviter d'être à la place de l'autre personne et de décider pour elle. Ne décidez pas qu'elle doit tout de suite aller bien, résoudre tout. Il faut que chacun aille à son rythme et il faut laisser le temps au temps aussi. Hein. On doit passer par ces étapes si on doit. Il ne faut pas brusquer les choses et c'est pas parce qu'on veut du bien à quelqu'un que c'est lui faire du bien que d'aller trop vite.
Oui.
J'espère que ça répond. Attends, j'avais vu une question. Attends, est-ce que
Je vois la question de Coram qui arrive. Peut-on faire une ronde pour un deuil de nos ancêtres?
On peut. On peut si ça fait partie de vos croyances. Ah, de vos ancêtres, c'est-à-dire à quelqu'un qui est décédé. Moi, je pensais à une... Oui, vous voulez dire pour les grands-parents, des choses comme ça, c'est ça?
Oui, je crois. Elle marche pour quelqu'un que nous n'avons pas connu, car mort pendant la guerre.
Bien sûr, parce qu'en fait, l'émotion que vous ressentez, c'est une émotion, vous pouvez avoir du regret de ne pas les avoir connus, vous pouvez avoir eu de la peine d'avoir vu vos parents, votre entourage souffrir de leur... avoir de la peine de leur absence. Donc déjà, bon, le fait que vous ne les ayez pas connus, c'est peut-être un premier point de départ. Vous pouvez faire une ronde sur le fait de ne pas les avoir connus, tous les regrets que vous avez. De ne pas... Et puis aussi, peut-être, si vous, tu disais qu'ils sont morts pendant la guerre, c'est ça? Parce que je n'ai pas vu ce poste.
Oui. Oui, c'est ce qui était marqué.
Voilà, et peut-être aussi sur les circonstances de la mort. Et en fait, je pense que je ne sais plus qui en parlait hier dans une des la culpabilité générationnelle. Elle parlait du peuple juif, enfin du peuple allemand envers le peuple juif.
Oui, c'était dans la conférence de Caroline Thibault. Oui.
Voilà. Et en fait, on peut faire un parallèle là-dessus. En fait, on ressent ce que nous avons vu nos parents ressentir. C'est-à-dire que si vous avez de la peine parce qu'ils ne sont pas là, que vous ne les avez pas connus, que vous regrettiez la façon dont ils sont morts, tout ça, c'est des thèmes que vous pouvez aborder, ce sont des aspects autour de ça. Alors, quelqu'un disait, Fatih, rêver de ses parents décédés et sentir leur présence pendant des années, est-ce du déni? Ça peut être du déni, mais ça peut être aussi, ça peut faire partie de vos croyances. Si vous croyez en la vie après la mort, peut-être que vous sentez leur présence parce que ça fait partie de vos croyances.
Merci beaucoup, Anne, pour tout ce que tu as partagé. Merci à tous nos auditeurs.
Bon, je regrette qu'on ait à s'arrêter maintenant, mais tout a une fin. Et je vous remercie tous d'avoir écouté. Merci mille fois Maria et Noël et Valérie pour toute cette organisation. Très merci. Heureuse d'y avoir participé.
Merci d'avoir écouté cet enregistrement du deuxième congrès virtuel francophone d'EFT. Je suis Maria Hanel, votre hôtesse pour ce congrès, et je vous donne rendez-vous sur le site www.eft-le-congrès2012.com.